Vous êtes sur RTL. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Vincent Parisot sur RTL.
Et avant le rappel de l'actualité avec Céline Landreau et avant de vous retrouver toutes et tous au 32-10, un petit détour par Valceny. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour mon cher Vincent, quel bonheur de te retrouver.
Je suis vraiment ravi d'être avec vous, j'aurais bien aimé être à vos côtés, mais bon, la prochaine fois c'est promis. On va passer trois quarts d'heure, je vous dérange d'ailleurs à l'heure du déjeuner, non?
Pas du tout, non, jamais. Maman RTL me dérange jamais.
Bien, on va passer trois quarts d'heure ensemble avec les auditeurs d'RTL. Juste un mot sur ce festival, c'est le printemps, l'idée c'est quoi?
C'est la 12e édition et c'est que des amis. On ne veut pas d'emmerdeurs. C'est pas thématique.
C'est pour ça que vous n'y êtes pas, Vincent.
Ça, c'est pas sympa.
Non,
il n'y a pas de thématique. On parle de cinéma, on a de la chanson. C'est pour essayer parce que j'ai la chance d'avoir un auditorium qui porte mon nom. Oui. À la montagne, je dis toujours ça sent le sapin. Mais bon, mais c'est vrai que je voulais le faire vivre avec que des amis que j'aime dans ce métier. Et mon métier m'a permis de faire des belles rencontres et j'essaie de le faire partager aux gens de la Haute-Maurienne, cette région chère à mon cœur.
C'est formidable, on va le prolonger donc sur l'antenne d'RTL et ça sera avec vous à partir de 13h45. On pourra vous poser toutes les questions, hein.
Oui, il n'y a pas de joker.
Non,
vous pouvez tout me poser. On fera ça dans la joie et dans la bonne humeur, avec un beau soleil et de la neige.
Et évidemment, et on va parler notamment de vos talents de skieur.
Ah bon?
Ah bah oui, moi j'ai quelques idées en tête. À tout à l'heure Laurent.
À tout à l'heure Vincent, merci.
Il est 13h02, hein, on a pris le temps de saluer Laurent et maintenant c'est l'heure de l'actualité. Vous nous rappelez l'essentiel, Céline Landreau.
La France n'est pas en faillite, tempère le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici, alors que le déficit public dérape et devrait avoisiner les 5,6% pour 2023. Et pendant qu'il faut chercher des milliards, eh bien, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, réclame d'entamer une réflexion sur une contribution exceptionnelle sur les super profits ou les super dividendes des grandes entreprises. La Commission européenne, elle, veut taxer les produits agricoles russes et notamment les céréales importées dans l'Union en vue d'assécher des revenus qui permettent aujourd'hui à Moscou de financer sa guerre en Ukraine. Et puis le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Israël pour insister sur l'urgence d'accroître l'aide humanitaire à Gaza. Et cela alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit se prononcer aujourd'hui sur une résolution pour un cessez-le-feu immédiat dans le territoire palestinien. Claire Delorme, la météo, du soleil pour tout le monde encore cet après-midi ou presque?
Oui, exactement, il faudra en profiter car le temps commence déjà à se dégrader par le quart nord-ouest, donc on a l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui va apporter donc d'une part beaucoup de nuages, de la pluie mais aussi du vent, donc surtout le long du littoral de la Manche pour cet après-midi. Et puis à l'avant, on a quand même de plus en plus de passages nuageux, même si les éclaircies restent quand même aussi présentes, que ça soit des Pays de la Loire en remontant vers les frontières du Benelux. Ça sera très ensoleillé en direction du sud, peut-être à l'exception des Pyrénées où quelques averses d'altitude pourraient se déclencher. Quant aux températures, elles sont également printanières, comprises entre 18 et 22 degrés. Ça se traduit par exemple par 18 degrés à Paris, 19 degrés à Metz, 21 degrés à Dijon, 23 degrés à Clermont-Ferrand, 23 degrés également à Montélimar et ça pourrait grimper jusqu'à 26 degrés localement, que ce soit dans la Nouvelle-Aquitaine ou encore dans l'Occitanie.
Et demain?
Alors demain, bah là, le changement radical de temps, hein, que ce soit sur la moitié nord avec le retour des giboulées et de la neige sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, ça restera plus calme ailleurs, mais on observe une nette baisse du mercure généralisée, sauf près de la Méditerranée. On pourrait perdre entre 6 à 10 degrés par endroit en l'espace de 24 heures.
Bon, bah on va s'y préparer. Vous avez dit de la neige dans le Jura. Est-ce que de la neige dans les Alpes, du côté de Valceny, est annoncée?
Alors ça pourrait en effet être le cas, mais à confirmer par Météo France dans les prochaines.
On verra ça tout à l'heure avec Laurent. Merci beaucoup Claire, merci Céline. Le vendredi 13h05, ça sent bon pour vous. Hein.
Ah bah
ça sent le week-end.
Ça sent la préparation pour lundi.
Bah évidemment, je sais bien, vous allez vous y mettre tout de suite.
Bon week-end Vincent.
Bon après-midi et vous serez sur l'antenne évidemment dès lundi avec Éric Brunet. Et je salue Lisa Marie qui est avec nous. Lisa Marie Marquez, bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
On peut revenir sur les témoignages de Laurie, vous savez, la chanteuse. Et c'était ce matin sur RTL.
Et ce témoignage, Laurie, qui est revenue sur son combat contre l'endométriose, ce témoignage a fait beaucoup réagir sur le répondeur. De nombreux témoignages de femmes qui, comme Laurie, ont vécu des situations où elles n'étaient pas prises au sérieux. C'est le cas d'Hélène qui a appelé le 3210.
Je suis malheureusement concernée par, comme disait Laurie dans un interview, cette maladie à la mode dans l'endométriose. Moi, ça a mis plus de 7 ans à être détectée parce que comme beaucoup, c'était écoutez, vous n'êtes pas la première à avoir vos règles, donc vous avez mal, c'est normal. Donc j'ai eu malheureusement affaire à plusieurs médecins qui ne me croyaient pas. Beaucoup de praticiens ne sont pas trop à l'affût de cette problématique et c'est bien dommage.
Et c'est malheureusement encore le cas aujourd'hui, mais ça l'était encore plus il y a une trentaine d'années avec des médecins indélicats, comme en témoigne Monique sur le répondeur de RTL.
Voilà, moi, il y a 30-35 ans, on m'a diagnostiqué une endométriose. À cette époque-là, c'était le début, on n'en parlait pas. Et on a fini par me dire, madame, vous n'aurez jamais d'enfant. Et puis voilà, maintenant j'ai une fille qui a 31 ans, qui va très bien. Il ne faut pas perdre espoir, mais il faut en parler parce que c'est une maladie qui est insidieuse. On ne le sait pas forcément, il faut que les femmes fassent attention.
On parle donc d'endométriose, une maladie très invalidante qui touche une femme sur 10 en France. Vous pouvez réagir sur l'application RTL au 3210. Nos standardistes, Margot, Cerise, Enzo et Victor, attendent vos appels et vos messages.
Alors évidemment, vous pouvez réagir, témoigner. D'ailleurs, on va avoir Clara, Michel, Syrienne en ligne pour nous raconter leur vécu. Mais vu ce qu'on entend, j'aimerais bien avoir des médecins. Vous êtes médecin, comment réagissez-vous face à des patientes qui vous expliquent qu'elles ont de grandes douleurs insupportables pendant les règles? Là aussi, je pense que ça ferait avancer un petit peu le débat. Faut toujours dialoguer. 3210.
Vincent Parisot.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Ce radiologue, par exemple, Laurie, chez qui vous allez pour une IRM, donc, et il vous dit « Oh, faut arrêter avec cette maladie à la mode ».
Cette maladie à la mode, ça m'a choquée. Sur le coup, j'ai pas su quoi lui répondre, comme si on faisait exprès d'être malade pour être à la mode.
Oui, ou que c'était dans la tête.
Oui, c'est ça, exactement. Et donc, ce fameux radiologue, il me parlait mal, et en plus, il me dit « Oui, ça va, bon, vous en avez un petit peu, mais pas besoin de vous faire opérer, vous allez pouvoir vivre avec et tout ça ». Et finalement, non, il avait complètement tort. Donc voilà, faites attention, les filles. Si vous avez des professionnels de santé qui ne vous croient pas, qui ne vous écoutent pas, changez.
Voilà, 3210, on vous attend pour réagir. Vous venez d'entendre donc Laurie qui expliquait ce médecin, lui parler de cette maladie à la mode. Bonjour Clara.
Bonjour, bonjour à tous.
Bienvenue, vous nous appelez de Célestat.
Oui, merci.
Et vous, alors l'endométriose, c'est une longue, longue, très longue histoire.
Exactement, oui, j'ai mis 14 ans à me faire diagnostiquer.
14 ans d'errance médicale.
Oui, tout à fait.
Pourquoi ? Parce que au départ, vous êtes allé voir votre médecin, votre gynéco, comment ça s'est passé ?
Alors, tout a commencé avec mes premières règles, en fait. Hein, à 11 ans et demi, j'ai été menstruée, les symptômes sont arrivés tout de suite.
Vous aviez déjà très mal quand vous étiez petite, enfin quand vous étiez enfant.
Dès les premières règles. Oui. Les premières règles ont été terribles et ça m'a suivie chaque mois.
Vous étiez prise au sérieux dans la famille, déjà, première chose ?
Alors, en fait, on ne s'est pas trop inquiété. Effectivement, on se rendait compte, les gens de ma famille se rendaient compte que j'avais des douleurs. Mais effectivement, quand on a ses règles, on a mal. C'était la normalité. Voilà, exact. Donc, à l'époque, j'étais suivie par le gynécologue de ma maman, ce qui est souvent le cas pour les jeunes filles.
Oui, hein.
Et lui était un gynécologue un peu en fin de carrière qui, je pense, n'avait même pas conscience de l'endométriose, en fait.
C'est ça. Voilà. À l'ancienne, un peu.
Exactement, c'est ça.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Parce que les douleurs, elles ont continué.
Voilà, donc effectivement, avec les années, les douleurs ont
évolué. Qu'on comprenne bien, quand on parle de douleurs, parce que voilà, surtout nous, les hommes, vous avez un petit truc et tout de suite, on a mal, très très mal. Quand on parle de douleurs, c'est des douleurs qui sont invalidantes.
Alors, c'est très important de l'expliquer. Effectivement, ce sont des douleurs qui sont carrément handicapantes, qui ne passent pas avec un antidouleur classique, voire avec de l'ibuprofène, quelque chose d'un peu plus fort. En fait, on n'arrive pas à faire passer la douleur, quoi qu'on prenne.
Ce que je vous propose, Clara, parce qu'on doit faire une petite coupure, c'est obligatoire de le faire maintenant. Je vous reprends dans un instant, c'est promis, et on va parler de ce parcours de combattante que vous avez dû suivre pendant 14 ans. A tout de suite, 3210.
Les auditeurs ont la parole.
Avec Vincent Parisot sur RTL. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
Voilà, j'en ai souffert pendant des années, dans les années 80, 90, et cette maladie s'est soldée par 3 interventions chirurgicales suite après des traitements de décapeptiles et de triple dose d'hormones. Voilà, cette maladie, malgré les interventions, laisse beaucoup de séquelles.
On a des témoignages par dizaines sur le répondeur d'RTL, témoignages de femmes essentiellement, mais pas seulement, pour expliquer le calvaire que représente l'endométriose et surtout ces années à d'abord à mettre un nom sur la maladie et à être prise au sérieux. On retrouve Clara à Célesta. Vous nous expliquiez, Clara, que dès vos premières règles, les douleurs étaient intervenues, que c'était une douleur très... qui ne passe pas, hein, les antidouleurs ne servent à rien. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, Clara ?
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, les symptômes ont continué à évoluer. J'ai commencé à avoir aussi des douleurs en dehors de mes règles. Et finalement, jusqu'à à peu près à ma vingtaine, je n'avais plus qu'une semaine par mois où je vivais normalement. Le reste du temps, j'étais malade constamment. Et là, c'est en fait ma maman qui a sonné la sonnette d'alarme, voilà, en disant « Écoute, j'ai vu un documentaire sur une maladie qui s'appelle l'endométriose. J'ai l'impression que tu as pas mal de ces symptômes-là. » Donc, suite à ça, eh bien, en fait, je me suis renseignée et effectivement, je me suis dit que c'était ce que j'avais. Ouais. Et c'est moi qui suis allée voir mon médecin en lui disant « Je pense que j'ai de l'endométriose, je veux faire une IRM. Il faut me prescrire une IRM. » C'est comme ça que j'ai été diagnostiquée, du coup, à l'âge de 25 ans.
Ah, c'est fou, c'est-à-dire que c'est vous-même qui avez dû faire quasiment le diagnostic. Et depuis, alors, est-ce que les choses se sont améliorées une fois le diagnostic établi ?
Alors, pas tout de suite. Effectivement, le diagnostic permet quand même d'être pris en charge, donc c'est extrêmement important. En Alsace, on a la chance d'avoir quand même des professionnels de santé qui se sont intéressés à la question. Donc, je suis bien suivie, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai acheté à peu près tous les livres que j'ai pu voir sur l'endométriose pour, en fait, me renseigner sur ma maladie, qui est quand même encore très peu connue. Ouais. Et j'ai créé mon propre parcours de soins. Donc j'ai testé beaucoup de médecines parallèles et autres jusqu'à trouver ce qui me correspondait entre l'équilibre médecine douce et médecine traditionnelle.
Donc vous n'avez pas eu besoin de prendre une décision radicale comme Laurie nous l'expliquait ce matin avec l'ablation de l'utérus.
Alors pas tout de suite, pas aujourd'hui, parce que j'ai un désir d'enfant, donc ça c'est encore un autre sujet, mais par contre effectivement l'ablation de l'utérus est un sujet qui sera mis sur la table une fois que les enfants sont faits.
Bien sûr.
Bien sûr,
parce que l'endométriose ne veut pas dire, évidemment, ne pas avoir d'enfant. On a Cyrienne, vous pouvez rester en ligne, évidemment, Célesta, si vous souhaitez réagir. On va du côté de Neuville-de-Poitou retrouver Cyrienne. Bonjour Cyrienne.
Oui, bonjour, c'est Cyrielle, deux L.E.
Bon, bah, très bien, vous faites bien de me le préciser. Et je dis ça à toutes celles et toutes celles qui s'occupent de mes fiches. Vous savez, parfois, les prénoms, il y a des prénoms qui sont souvent étonnants. Donc, Cyrielle.
Oui, enchantée, bonjour.
Bonjour, enchantée. Je disais, ça n'empêche pas toujours, en tout cas, d'avoir des enfants. Vous en avez eu deux.
Deux, voilà. Moi, j'ai eu cette chance, même en ayant ça, de pouvoir avoir des enfants assez facilement. Oui. Vraiment, j'ai pas mis tant de temps que ça. Mais du coup, voilà, c'est possible dans certains cas. Après, j'avais pas une endométriose étendue ailleurs que sur l'utérus. Oui. Voilà, j'ai vraiment eu la chance d'avoir deux grossesses, hein, deux enfants naturellement.
Oui.
Voilà,
vous avez connu cette errance médicale, à ne pas savoir ce que vous aviez, à ne pas être prise au sérieux ?
Un petit peu, oui, parce que moi, c'était il y a quelques années. Hein. Moi, j'étais réglée très tard. J'avais 16 ans, donc, et j'ai eu mal au bout de 2 ans. Mon médecin traitant me disait que c'était normal. Voilà. Donc, j'ai laissé
c'était
faire.
C'était normal, on a mal au moment des règles, c'est normal, on voit madame.
Voilà, c'est ça, on a mal, c'est normal. Voilà, sauf qu'en fait, avoir mal, c'est pas normal. Et en fait, j'ai fait un gros malaise sur un lieu de stage, et là, on m'a dit, c'est pas normal. Donc, je travaille dans le milieu médical, donc c'est la chance que j'ai eue. J'ai pu être suivie par des gens vraiment très bien. J'ai eu deux interventions avant mes grossesses. J'ai eu mes grossesses et on a pris ensuite la décision, comme c'était trop revenu. J'ai eu une hystérectomie. Voilà. Et je regrette pas du tout.
Oui,
pas du tout, pas du tout. Je revis.
Oui, alors un, vous avez votre famille, maintenant vous avez deux enfants.
Oui, voilà.
Et
exactement.
Voilà, vous ne vivriez peut-être pas la situation de la même manière aujourd'hui, même si on imagine que c'est une libération de ne plus souffrir, si vous n'aviez mis au monde ces enfants en même temps.
Ah ben bien sûr, ça c'est sûr, quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, ben voilà, j'ai cette chance-là. Ouais. Maintenant, s'il y a la possibilité, et ma chirurgienne a été, je ne pouvais pas avoir d'autres enfants, je risquais d'y rester ou de perdre mon bébé si j'en faisais un autre. Ouais. Donc en fait, on a dit, bah, ça sert à rien de continuer des traitements qui nous abîment, hein, parce que la ménopause artificielle, faut pas croire, mais ça nous abîme parce que ça use plein de choses. Mmh. Et en fait, la décision a été prise, et pour ma part, et c'est toujours le principe de l'intervention, c'est ça m'a sauvé et je ne souffre plus, quoi.
On imagine cette libération, effectivement, de ne plus souffrir. C'est une nouvelle vie, hein, une nouvelle vie.
Oui, oui. Et je souhaite du courage à toutes les femmes. Il faut vraiment se battre pour faire entendre la maladie, parce que moi, j'étais diagnostiquée il y a très longtemps. On en parlait très peu. Et je pense que le fait de connaître du monde, on s'est dit, mais là, c'est pas normal. Et donc, je souhaite vraiment courage à toutes ces femmes-là.
Vraiment. Et elles sont nombreuses, hein, je peux vous le dire, Cyrielle, à témoigner à la fois sur le répondeur d'RTL, mais à attendre au 3210. Tiens, on va prendre dans un instant Patricia en ligne. Je crois qu'elle a dû voir 13 gynécos avant d'être enfin prise au sérieux. Allez, à tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
Auditeurs et auditrices qui appellent en nombre pour évoquer l'endométriose et souvent le parcours de la combattante pour vraiment se faire diagnostiquer et se faire prendre au sérieux par ses médecins. Une petite chose quand même à vous dire, ça va mettre un petit peu de baume au cœur à toutes celles et tous ceux qui peut-être souffrent de cette maladie, c'est-à-dire qu'à l'occasion des fêtes de Pâques, eh bien RTL a décidé d'offrir aux auditeurs qui interviennent aujourd'hui à l'antenne un assortiment de chocolat Gève de Bruges. Donc un assortiment de Pâques avec une grande variété de recettes au praliné, les guimauves enrobées de chocolat. Je les vois en régie, ils se régalent, n'est-ce pas?
Tout à fait, bon. Tout à fait, Vincent. Vous les avez goûtés aussi?
Oui, ils sont pas mauvais. Oui. Ils sont même très bons. De quoi vous régaler? Alors Clara et Cyrielle, qui sont déjà intervenus, vont recevoir leur chocolat de Pâques, et toutes celles et tous ceux qui interviennent maintenant. Et que se passe-t-il d'ailleurs sur les réseaux sociaux en ce moment, et sur le, est-ce qu'on a des messages
sur notre application RTL? Effectivement, oui. Vincent, un message de Béatrice qui témoigne: j'ai également eu un parcours compliqué, j'ai eu de l'endométriose, je ne parvenais pas à tomber enceinte, mon gynécologue me disait que c'était simplement dans ma tête. Martine, 10 ans de galère, puis rencontre du docteur miracle, on essaye, peu d'espoir. Laparotomie, 3 mois après un bébé, 15 mois après un deuxième bébé, c'était il y a 35 ans.
Bon, tant mieux, on a vraiment des témoignages qui se ressemblent, hein. je tiens à le dire. Patricia est avec nous, bonjour Patricia.
Bonjour Vincent.
Je disais, juste en présentant votre intervention, parce que j'ai quand même du mal à y croire, vous avez dû voir 13 gynécos.
Oui, oui. Je suis dans les Hauts-de-France. Je me retrouve dans le parcours de Clara, c'est-à-dire j'ai été pareil. J'ai eu des règles très jeunes, des règles extrêmement douloureuses. Mm-hmm. Pas d'explication familiale, parce qu'on apprendra plus tard que l'endométriose peut avoir un effet, enfin, quelque chose d'héréditaire, ce qui n'a pas été mon cas.
Oui, c'est-à-dire que votre maman n'avait pas de douleur particulière.
Non, non, personne, pas mes sœurs, enfin pas ma sœur, pas mes grand-mères, personne. Ça ne s'expliquait pas. Ouais. Donc peut-être on pouvait penser que j'étais plus douillette que la moyenne.
C'est ça.
Et puis toute ma vie a été rythmée suivant les douleurs des menstruations. Et puis j'ai 53 ans. À l'époque, on n'osait pas en parler comme ça. Enfin, c'était voilà, on ne parlait pas de cela.
Pour avoir une idée, encore une fois, des douleurs, c'est très invalidant. On avait Laurie, par exemple, ce matin, la chanteuse, qui expliquait qu'il lui est arrivé de même pas pouvoir traverser la rue.
Mais non, bien sûr. En fait, on parle de douleurs, mais ça ne veut rien dire.
Oui.
Ce sont des souffrances. Moi, à certains moments, des collègues devaient me reconduire chez moi. Au moment des règles, je n'étais plus en mesure de marcher. Je marchais comme une personne sur le point d'accoucher. Les douleurs sont semblables à des coups d'épée dans le ventre et dans les autres organes qui sont touchés par l'endométriose. Parce que l'endométriose peut tapisser beaucoup d'organes.
Alors, je disais, vous avez usé 13 gynécos. Que vous disaient, j'allais dire, les 12 premiers?
Alors, souvent, on me disait, c'était bizarre, je devais inventer mes douleurs. il fallait que je m'occupe. On m'a proposé des antidépresseurs. Une seule m'a dit, écoutez, peut-être une maladie, ça s'appelle l'endométriose. C'est comme un chewing-gum qui se colle dans un voilage. Vaut mieux ne pas y toucher.
Donc là, on est quoi, dans les années 90
On est dans les années fin 90-2000. Je vois ensuite des gynécologues. J'ai des douleurs atroces. J'ai mal 3 semaines sur 4. Donc ça laisse peu de chance pour vivre des choses.
C'est ce que nous disait Clara. Et ça, à la fin, elle avait une semaine de répit par mois.
C'est ça. Je ne pouvais plus mettre de pantalon. Je ne supportais plus rien sur le ventre. C'est inexplicable. Puisque ensuite, il y a aussi, suivant les cas d'endométriose, des hémorragies internes. Parce que quand le sang, quand une part de l'endomètre a été vascularisée sur un autre organe, l'autre organe trouve ça trop lourd et à tout moment le lâche. Voilà. Et donc je me fais opérer de fibrome en 2006 dans une clinique. Alors psychologiquement c'est génial parce qu'on vous met à l'étage des personnes qui accouchent. Et me dit, voilà, j'ai retiré le fibrome. Par contre, oui, vous avez l'endomètre, de l'endométriose. Et je lui dis, oh, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ah ben, j'ai refermé, vaut mieux pas toucher à ça.
Et donc, ça a continué?
Alors, ça a continué jusqu'à un moment donné, une nuit, je fais un malaise. De douleur, à l'époque, c'était, nous sommes en 2006. Je regarde sur Internet et je trouve un site qui s'appelle endofrance.org. Et la une de ce site, c'est un professeur qui l'écrit et qui dit typiquement tout ce qu'on m'a dit. Qu'en fait, c'est normal que les femmes aient mal, qu'on s'invente les douleurs, qu'on serait bien. Parce que moi, des médecins m'ont proposé des antidépresseurs. Et il dit qu'en fait, non, ça n'est pas normal. Et je vois professeur Madelena, hôpital de Bichat. Le lendemain, j'appelle à l'hôpital de Bichat. Elle me dit non, il n'exerce plus dans le public, il est dans le privé. Je demande le numéro, on me le donne. Et là, ma vie commence à changer. C'est-à-dire qu'il me prend au sérieux, j'amène tous les examens. Il me dit, mais on ne voit rien. Il me fait passer des examens chez des radiologues qu'il connaît. Au début, on ne trouve pas. À un moment donné, la radiologue trouve, s'éloigne avec son téléphone et j'entends qu'elle lui dit, elle ne rigole pas, elle est tartinée, la pauvre. Et s'en suivra plusieurs opérations, jusqu'à l'hystérectomie, à l'âge de 39 ans, où je dois passer une expertise psychologique pour savoir si on peut bien faire cette hystérectomie. Mais au-delà, Vincent, je sais que vous êtes pressé, simplement ce que je veux dire, c'est que j'ai été longtemps les cobayes de ces médecins et des laboratoires. J'ai pris des hormones qui m'ont donné des tumeurs, j'ai été sous des décapeptiles qui ont engendré d'autres problèmes. Et à l'époque, j'avais signé une pétition auprès de la ministre de la Santé, Madame Bachelot, qui n'a jamais répondu en tant que femme, qui n'a jamais bougé. Il y a certaines caisses primaires qui remboursent, d'autres qui ne remboursent pas. Moi, à chaque opération, j'étais à 3000 euros de ma poche.
Vous n'étiez pas remboursé pour toutes vos opérations. Je voudrais juste savoir, Patricia, aujourd'hui, d'une certaine manière, vous vous sentez libérée depuis l'hystérectomie?
J'ai une nouvelle vie, oui. Mais à la souffrance physique, c'est vrai que c'est ajouté à la souffrance morale, puisque quand tout a été examiné, bon, en fait, on a découvert que j'étais stérile de chez stérile. Et puis ça a mis 6 mois, et puis la vie a continué. Oui, j'ai eu, jusqu'à la ménopause, j'ai eu une belle vie. Et à la ménopause, les hormones vous rattrapent.
Bon, et là, c'est une autre histoire, évidemment.
Les conseils simplement donnés, c'est... pas d'alimentation industrielle, c'est comme ça que je l'ai maintenu endormi après l'hystérectomie, et du sport.
Bon ben voilà, ça c'était votre conseil, Patricia, mais en tout cas on a bien compris ce parcours du combattant absolument incroyable. 13 gynécologues avant d'être prise au sérieux. Et justement, alors on va avoir dans un instant Claudine en ligne. Elle a été gynécologue, elle doit être à la retraite j'imagine aujourd'hui. Et elle veut nous en parler, elle a le courage de s'exprimer sur cette question assez sensible au 3210. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Parisot. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Dans les années 70, entre 70 et 80, ils ne savaient pas du tout ce que c'était. À la première intervention, j'ai quand même eu une intervention à 30 ans. Et il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui se signaleront, étant donné que moi j'ai quand même 74 ans. Maintenant, en 2024.
Voilà donc pour ce témoignage d'une auditrice qui nous expliquait que voilà, dans les années 70-80, c'était bien difficile de se faire entendre sur ces douleurs liées à une endométriose, mais on a pu constater avec les témoignages depuis 13 heures, avec le témoignage ce matin sur RTL de la chanteuse Laurie, qu'en 2024, c'est pas toujours simple de se faire prendre au sérieux pour une endométriose. J'ai lancé un appel aux médecins et aux gynécologues pour qu'ils nous expliquent leur point de vue, parce que c'est vrai qu'on a des témoignages qui sont vraiment tous semblables. J'ai expliqué ces douleurs insupportables et on me répondait ou c'est dans votre tête, ou c'est la maladie à la mode, ou écoutez madame, c'est normal, quand on a ses règles, on a mal. Et Claudine est avec nous. Bonjour Claudine.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Evreux. Je disais ex-gynécologue, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes à la retraite, j'imagine ?
Oui, bien sûr, mais mon combat depuis très longtemps, depuis même le début de ma carrière, j'ai été dans des services qui étaient spécialisés en stérilité, ouais, et qui étaient spécialisés en dépistage de l'endométriose et en traitement. Donc c'est quelque chose que j'ai connu toute ma vie, que j'ai combattu toute ma vie.
Ça veut dire, je vous interromps Claudine, attention, ça veut dire que dans les années, je fais mes petits calculs, dans les années 70... L'endométriose était connue, diagnostiquée, les médecins, les spécialistes...
Attention. Oui, je voulais... Allez-y. Attention, oui. Attention, elle était diagnostiquée, mais par un examen qui était relativement lourd, c'est-à-dire une stérioscopie. Donc c'est une intervention d'abord qui était peu répandue, hein, mmh, ou bien c'était une intervention vraie quand il n'y avait pas de gens qui pouvaient faire une stéréoscopie et qui n'était fait que comme en cas de kyste, mmh, c'est-à-dire déjà d'une maladie évoluée. Mmh. Hein. Donc aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer, il y a un examen fondamental à faire quand des femmes ont des règles abondantes et douloureuses, ce qui n'est pas normal,
voilà, hein,
ou bien des antécédents d'endométriose, il faut faire une IRM dans un service spécialisé en infertilité. Mmh. Et à ce moment-là, le radiologue fera le diagnostic d'endométriose au stade précoce, et on n'aura pas les délabrements qu'on a eus pendant des années et des années et des stérilités impossibles à traiter.
Le conseil donc que vous donnez, Claudine, à toutes ces femmes qui nous écoutent et qui s'interrogent et qui n'en peuvent plus de ne pas être prises au sérieux, c'est d'aller voir leur médecin et de leur demander de leur prescrire une IRM.
Même pas d'aller voir leur médecin, d'aller directement dans un centre de paiement.
Oui.
Voir un gynécologue qui est spécialisé dans l'infertilité et donc qui va connaître l'endométriose par cœur, des radiologues qui seront capables de faire une IRM à la recherche d'un petit foyer d'endométriose quelque part.
D'accord.
À ce moment-là, on peut le prendre très tôt. Et comme les femmes ont des règles comme pendant longtemps, il faudra bien sûr les suivre et empêcher la diffusion après une grossesse de l'endométriose, la reprise de l'endométriose. Voilà.
Alors, moi, j'ai été frappée, Claudine, par tous ces témoignages de femmes qui nous expliquaient que leur médecin, leur gynécologue leur disait « C'est normal, madame, d'avoir mal pendant les règles » ou « C'est dans la tête ». Je ne vous demande pas, Claudine, évidemment, de dénigrer ou de dire de mal de vos consoeurs ou confrères. Mais est-ce que vous avez une explication à donner ?
Déjà,
parce que vous imaginez la détresse de ces femmes.
Oui, j'ai une explication. J'ai deux explications. Il est évident que les femmes, depuis toujours, elles ont le droit de souffrir. Elles ont même le devoir de souffrir. Les règles, ça fait souffrir. C'est banal et on ne s'en occupe pas. Voilà. D'autre part, il faut dire aussi que la maladie n'a toujours pas de diagnostic et multiple, enfin, et complexe, on va dire. Ses causes sont complexes. Et en plus de ça, si vous voulez, les moyens de la dépister, pendant très longtemps, ont été très lourds.
Oui.
Donc, en fait, une stéréoscopie, une intervention, on ne la fait pas de gaieté de cœur quand il y a un risque potentiel toujours de pépins.
Voilà. Oui, bien sûr.
Voilà.
Bien sûr, donc, le risque était trop important de manière systématique faire cette...
Exactement. Et le problème, c'est que les douleurs n'étaient pas prises en compte parce que c'était des femmes et qu'en plus de ça, après ça, la fertilité, les patrons d'infertilité n'étaient pas si nombreux que ça.
Oui.
Les gens en province, dans l'endroit où j'étais, je peux dire sans être trop, je dirais, comment dire, peu modeste, j'étais une des rares aussi spécialisées en infertilité et en endométriose. Voilà.
Bon, en tout cas, merci de cet éclairage. Ça explique effectivement beaucoup de choses, Claudine, et notamment que dans l'esprit de tous ces médecins, souvent des hommes, qu'une femme souffre, c'est normal, puisque c'est une femme. Hein, voilà,
mais
en
mon
gros.
Message, c'est qu'il y a un dépistage précoce.
Voilà. Par l'IRM. Voilà. Il faut aller dans un centre d'infertilité. On a bien compris. Et c'est, et c'est précieux, précieux votre conseil. Merci beaucoup, Claudine. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que cette émission est formidable, parce que vous êtes nos experts, encore une fois, et qu'il y a une forme d'entraide qui se crée. Bonjour, Michel. Où êtes-vous ? Du côté d'Aiquefeuille, c'est ça ? Où ça se passe ?
Ah non, pas du tout. Oh là là.
Vous n'êtes pas du tout là.
Ça, c'est mon nom de famille.
Ah, bien sûr. Excusez-moi, je ne connaissais pas. Ah non, vous êtes à Tuquenieux.
C'est ça.
D'accord. Et ça, est où, Tuquenieux ?
C'est dans le... en Meurthe-et-Moselle.
Très bien.
À côté de... dans le coin de Brié.
Parfait. C'est intéressant d'entendre un homme. Vous entendiez à l'instant cette gynécologue qui nous disait « Écoutez, les femmes, on ne les prenait pas au sérieux tout simplement parce qu'on considère qu'une femme, si elle souffre lors de ses règles, c'est normal. »
C'est ça. Et en fait, alors j'entends ça et j'entends les témoignages depuis tout à l'heure. Et ça rejoint beaucoup ce que mon épouse m'a déjà raconté avant que nous soyons ensemble.
Ouais.
Qui est c'est normal de souffrir. Elle avait déjà subi une intervention pour un kyste ovarien.
Oui.
De 13 cm, si mes souvenirs sont exacts.
Pas un petit kyste,
oui. Non, vraiment pas. Ça a été enlevé, machin, et en fait, finalement, c'est resté comme ça, et puis voilà, quoi. Mais avant d'être diagnostiqué endométriose, ça a été un combat de longue haleine, oui.
Elle aussi, votre épouse, elle n'était pas vraiment prise au sérieux par les médecins.
Ah non, du tout. Je pense que la seule personne qui l'est vraiment prise au sérieux, je pense que c'est son médecin traitant. Et en fait, on se rend compte que, enfin, elle s'est rendue compte d'elle-même, de toute façon, que, en fait, on s'est dit, c'est un combat perdu d'avance, quoi, en fait.
Aujourd'hui, comment elle va, votre femme, Michel?
Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On essaye de positiver, bien sûr.
Oui.
Il y a la ménopause.
Ouais.
La ménopause chirurgicale, l'ovarectomie, qui entraîne tout ce qu'une ménopause entraîne, bien sûr. Pour une femme de 42 ans, c'est très compliqué à vivre sur certains points.
On imagine. On imagine.
Hein, 44. Et c'est psychologiquement parlant, c'est très difficile. Physiquement, avec tout ce qui est lié à la ménopause, les douleurs lombaires, machin, enfin tout ce qu'il faut pas, quoi.
Bien sûr. Et le regret de ne pas avoir eu d'enfant.
Et un énorme regret de ne pas avoir eu d'enfant. Et quand on parle de méthodes, alternatives, c'est un peu risible.
Ouais.
Ça sera encore un autre débat, parce qu'on pourrait en ouvrir encore un qui serait les dérives de l'adoption.
Effectivement, c'est un tout autre débat, mais on comprend que, en revanche, ça vous concerne en premier chef, Michel. Évidemment, on pense fortement à vous, à votre épouse, à toutes les femmes qui sont dans la même situation, qui souffrent, qui ont souffert, qui ont dû parfois, comme votre épouse et vous-même, faire une croix sur un enfant, mais évidemment on aura l'occasion d'y revenir. On salue Florence qui a fait le 32-10, qui voulait intervenir pour nous expliquer que récemment elle avait été opérée par le même professeur qui a opéré Laurie, et elle explique que si elle n'avait pas été opérée à temps, elle ne pourrait sans doute plus marcher aujourd'hui. J'ai été vraiment très impressionné, et nous tous l'avons été, à la fois par le nombre de vos appels, par la qualité de vos témoignages. On aura l'occasion de, j'imagine, revenir sur cette maladie dont on parle évidemment beaucoup trop peu et qui est un véritable enfer pour toutes celles qui en souffrent. On va marquer une courte pause et puis on va prendre un petit peu de hauteur, voyez-vous, parce que nous allons aller du côté de Valsenny. Pourquoi Valsenny? Parce que Laurent Gérard y organise son festival. C'est le printemps, 4 jours de concerts et de spectacles. Et on va pouvoir passer maintenant 3 quarts d'heure avec Laurent et vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions et discuter simplement avec Laurent Gérard, que vous adorez, je le sais. A tout de suite, 32-10.
Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 32-10.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Vincent Parisot sur RTL.
J'allais le long des rues comme un enfant perdu. J'étais seul, j'avais froid, Valsenny, tu m'as pris dans tes bras. Ah, qui sont gentils les gens de Valsenny. Laï, 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 laï. Ah, qui sont gentils les gens de Valsenny. Laï, 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 laï.
Ah, c'était ce matin sur RTL et on a envie, nous aussi, de taper dans nos mains, Laurent Gérard. Vous étiez donc avec Enrico ce matin à Valsenny.
C'est venu d'ailleurs, hein, qui était venu chanter une année.
Oui, il skie bien d'ailleurs, je crois. Est-ce qu'il skie encore? Je ne sais pas d'ailleurs.
Enrico, non, je ne pense pas. Non, on avait fait plutôt du bar.
Il est bien en descente aussi, là.
Il est bien en descente, ce n'est pas les mêmes descentes.
C'est vrai qu'ils sont gentils, les gens de Valsenny, Laurent Gérard.
Oh oui, bien sûr, oui. Non, mais c'est ma région de cœur.
Oui,
mon grand-père était né dans la région. Et puis, c'est vrai que c'est une région un peu rude, il faut l'admettre, parce qu'il fait froid, mais les cœurs sont chauds, comme dirait Enrico. Voilà. Et c'est vrai que moi, je suis toujours ému quand je reviens ici, parce qu'il y a des gens qui viennent de parfois très loin, de Bretagne, de Belgique, qui traversent la France pour venir ici, parce qu'on retrouve une authenticité dans la Haute-Maurienne.
Vous y venez régulièrement ?
Ah oui, j'y viens régulièrement, et je viens même hors saison, c'est-à-dire je viens en automne parce que c'est l'été indien. Et puis j'ai lié quelques liens avec... j'ai monsieur le maire de Valsenny qui est à côté de moi.
Oui, on va l'interroger dans un instant, évidemment, vous avez dû nouer
c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et c'est authentique, c'est cette authenticité que j'aime et que je pense que les touristes et les habitués viennent rechercher ici. Ouais.
Alors, on va parler quand même de Laurent Gérard, le skieur. Je rappelle que tous les auditeurs peuvent intervenir, font le 32-10 et pourront vous poser des questions et dialoguer avec vous. Mais j'aimerais bien qu'on parle de Laurent Gérard, le skieur. Moi, je me souviens, Laurent, on se connaît depuis... quelques décennies quand même.
On a œuvré.
Et je me souviens, vous me racontiez une époque où vous faisiez du ski au Canada. Je sais pas, c'est peut-être pas très écologique aujourd'hui, mais vous faisiez déposer par hélicoptère. Vous êtes un grand skieur.
On va pas se faire des copains là.
Non, on va pas se faire que des copains.
Non, je suis allé au Kamchatka aussi. On peut plus y aller maintenant, mais c'était vraiment la péninsule qui est au bout de la Sibérie. Et oui, j'avais décidé de. Et ben pendant que j'avais encore les guibolles, de pouvoir faire un petit peu de ski un peu partout dans le monde.
Yves Dimier est à côté de vous, l'ancien champion de ski. Ben voilà, il va peut-être pouvoir nous parler de votre niveau de ski. Également directeur de la station, je crois. Bonjour Yves Dimier.
Oui, bonjour à toutes et à tous.
Vous lui donnez sa première étoile à Laurent Gérard ?
On en parlait avant, je crois qu'il a jamais réussi à passer la deuxième étoile. Maintenant, il a un niveau bien supérieur, mais ce serait assez sympa de lui dire d'aller passer la deuxième étoile avec les enfants, avec sa fille, tiens, pourquoi pas.
On me l'avait refilé après, quand je suis revenu faire un spectacle ici, parce que je l'avais loupé. Ouais, parce qu'ils sont durs, hein, quand même, hein, ils donnent pas
les... Il faut réussir le chasse-neige, hein, je vous préviens. Yves Dimier...
Et le dérapage,
très important. On peut dire que c'est un très bon skieur, Laurent Gérard.
Ah oui, on peut le dire. Ouais. Je suis toujours surpris. Nous sommes toujours surpris quand il vient là, quand il arrive de Paris, de ses tournées. On a toujours l'impression qu'il va arriver fatigué. Et en fait, donc on fait attention à lui. On va sur les pistes vertes. Il nous dit, allez, non, on prend la noire, là, allez, à fond. Ouais. Non, c'est un très, très bon skieur dans toutes les conditions.
Merci.
Ça veut dire que vous êtes en forme toute l'année, Laurent?
Oui, j'ai des formes aussi. Hein, mais on essaye d'éliminer un peu.
Oui,
mais c'est vrai qu'ici,
parce que le gratin dauphinois, c'est pas forcément la meilleure solution pour être en forme. Hein.
Non, ni le Genépi d'ailleurs, mais c'est quand même bon. Non, c'est vrai que là, par exemple, je suis arrivé samedi et on a fait les émissions en direct d'ici parce que il faut faire les émissions en direct à RTL. J'ai la chance d'avoir une ligne numérique dans mon chalet, mais je suis allé skier tous les jours, qu'il vente, qu'il pleuve. J'adore, voilà, ouais. c'est ma passion. J'en ai quelques-unes, hein, mais celle-ci vraiment au-dessus, la montagne.
En est une, avec la gastronomie et la viticulture.
Avec la gastronomie, oui, oh là là, pas trop, mais bon.
Non, on n'en parle pas trop.
De chance.
Surtout, ça met un coup de projecteur formidable sur cette station et cette commune de Valsenis. On est avec le maire, je crois qu'il est à vos côtés, Jacques Arnoux. Oui. Bonjour, monsieur. Arnoux.
Bonjour. Éditeur d'RTL.
C'est vrai que c'est une formidable publicité pour votre station.
Ouais, extraordinaire publicité même, oui. On peut dire que c'est la publicité qui va faire booster la station.
Bah, et ça, vous en avez besoin?
Je touche rien.
Est-ce que vous en avez besoin justement de cette publicité ou est-ce que vous craignez que dans cette station qui est assez tranquille, familial, est-ce que je me trompe si je dis ça, ça amène un petit peu trop de monde et de chahut?
Non, on a encore la place pour accueillir beaucoup de monde. Oui. On a un domaine skiable qui est quand même un des plus grands domaines de Maurienne.
Oui.
Donc on peut encore accueillir du monde et on
prend pas la neige. Et de la neige.
Et de la vraie neige, effectivement.
Ah, il y a un téléphone qui sonne. Visiblement, ça passe, en tout cas.
Il est très connu, monsieur le maire.
C'est le préfet qui m'appelle.
Alors, il y a Laurent, mais il n'y a pas que Laurent. Il y a évidemment tous ses invités et tous les invités de ce festival. 4 jours de concerts, de spectacles. Le festival, c'est le printemps. Là aussi, c'est formidable parce que ça permet de mettre une ambiance incroyable et puis d'attirer, là encore, du monde.
Alors effectivement, ça fait 12 ans qu'on fait ce festival, depuis 2012, et on a toujours plaisir à recevoir les amis de Laurent, parce qu'en plus c'est toujours des gens très sympathiques avec qui on passe d'excellentes journées et d'excellentes soirées.
Vous pouvez nous parler de Laurent Gérard en fin de soirée ou pas?
Ah, je voudrais pas dévoiler certains secrets.
Vincent.
Non, c'est vrai, j'aurais pas dû.
Mais c'est un bon compagnon de soirée.
Ouais, voilà, ça, je sais. Ça.
Vincent connaît ma réputation.
Ouais. Bon, ça, je connais.
Ça fait aussi partie du festival. C'est la troisième mi-temps, quoi.
Voilà, bien sûr.
Le festival de l'amitié.
C'est le festival de l'amitié.
Ouais, comme les rugbyman, les troisièmes mi-temps sont très importants pour souder la relation entre nous.
Oh là, j'ai pratiqué, mais c'est surtout pour expliquer aux auditeurs que Laurent Gérard est quelqu'un d'absolument formidable et quand on a eu la chance de le connaître, de le connaître, on le chérit. Laurent,
je vous confirme.
Alex Vizorek vient d'arriver, il est complètement dépaysé parce que le plat pays, là, il y a un peu plus de relief.
Ah bah ça change de la Belgique, ça c'est sûr que ça va changer de la Belgique.
Bonjour, vous dites que Laurent Gérard est quelqu'un de bien, c'est ça que je viens d'entendre sur RTL.
J'étais en train de dire ça. Mais monsieur Vizorek, ne partez pas trop loin, il y en aura aussi pour vous tout à l'heure. Allez, une courte pause. Dans un instant, eh ben, les auditeurs d'RTL, qu'ils soient évidemment à Valsenis, qu'ils soient au 3210, c'est avec Laurent Gérard et c'est jusqu'à 14h30. On va passer un sacré bon moment. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Vincent Parisot.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bien, je voulais juste laisser un message à monsieur Laurent Gérard que j'ai vu quand il était encore tout jeune dans les cafés-théâtres et puis que je suis depuis. On vous adore Laurent et on a hâte de voir votre prochain spectacle. Merci pour tous les fous rires que vous nous avez donnés, tous ceux que vous nous donnerez encore et tous les matins on vous écoute sur RTL.
Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Il naviguait en père peinard sur la grand mare de Cana.
Quelle lourde portée, l'absence de l'ami.
Voilà quelques extraits de spectacle, Laurent. Alors, je me fais le porte-voix parce qu'on a énormément de messages pour vous dire simplement merci. Merci de nous apporter chaque matin sur l'antenne d'RTL ce petit moment de bonheur. On écoutait ces voix, alors Reggiani, Beco Brassens, là en l'occurrence. C'est souvent dans vos spectacles, alors c'est pas forcément le moment où on rit le plus, mais c'est en tout cas le moment d'émotion intense.
Ben, j'essaie toujours de faire un spectacle de musical avec des musiciens. J'ai cinq musiciens encore là. Et la marque de fabrique, c'est effectivement de terminer, après toutes les vacheries que j'ai pu raconter pendant
c'est ça.
À peu près deux heures, de terminer par quelque chose de plus doux et de faire revivre ces artistes que je... Personnellement, j'ai tellement aimé et j'essaye de faire découvrir ça aussi. Je change les chansons régulièrement. Là, je vais chanter une chanson de Reggiani, puisqu'on entendait Reggiani.
Ouais.
Mais comme j'ai une petite fille, je vais chanter ma fille pour elle.
Bien sûr.
Et une chanson de Salvador qui s'appelle « Quand un artiste ». Et je terminerai par Gilbert Beco, car on ne célèbre pas assez.
Alors, je suis d'accord avec
Gilbert
vous.
Beco sur une chanson qui s'appelle « Seul sur son étoile ». Et voilà.
Est-ce que
autour de la gastronomie étoile, c'est...
oui, pas mal. Voilà, c'est en ce moment qu'elles sont décernées. Je crois qu'il y a Dominique auprès de vous. Est-ce que je me trompe, qui voulait vous dire un mot?
J'ai vu Dominique. Il était là ce matin, fidèle au poste.
Ah, complètement.
Fan de Laurent Gérard, Dominique.
Bah, bien sûr, j'ai suivi tous ces spectacles et je les apprécie énormément. Et je voudrais dire en préambule que non. Je l'ai toujours trouvé très sympathique dans ses spectacles, mais des visus, il est au moins autant.
Ça, c'est sûr. Bah merci. Je vais passer une bonne journée.
Alors, comme j'ai cru comprendre qu'il était en famille aujourd'hui, ma petite question, c'est de savoir, est-ce que l'humour est dans les gènes héréditaires?
Ah oui, ça rigolait à la maison, oui. Laurent?
Ça rigolait à la maison. Mon grand-père, qui pourtant avait vécu une période assez épouvantable pendant qui était la guerre, puisqu'il avait été fait prisonnier, il s'était évadé, mais il avait toujours gardé ce sens de l'humour et le sens de la dérision. Mon père avait un humour assez cynique, assez drôle, et ils m'ont jamais empêché d'ailleurs de faire mon métier, puisque mon grand-père était président de la fanfare, il m'a fait monter sur scène. Ouais. J'ai toujours eu de la musique autour de moi et j'ai toujours aimé les artistes et les musiciens, d'où aussi ce festival. Et là, je pense que la relève est là.
La relève est là.
Parce que ma fille qui est là et qui a eu son piou-piou aujourd'hui.
Bravo les piou-piou.
Ma fille chante assez juste. Bon, le papa est un peu gaga, mais ma fille chante assez juste, elle skie bien.
Voilà. Et elle va bientôt imiter les autres enfants de la crèche.
Elle a beaucoup d'humour, Célestine, c'est vrai. Elle me fait beaucoup rire. Oui, je pense que c'est vrai, mais je remercie surtout toutes les générations entre mon grand-père et mon père qui m'ont toujours encouragé finalement à faire ce que j'avais envie de faire, et c'est plutôt remarquable. Quoi.
Voilà, il y a quelque chose de familial.
Il faut le souligner.
Voilà. Alors, on va marquer une courte pause, évidemment, avec les infos dans un instant. On va vous retrouver tous en direct de Valsenis. Et puis, on accueille Jean-Alphonse.
Ah oui, c'est l'émission favorite de Laurent Gérard. Salut Laurent.
Oui, exactement. Ouais, salut Jean-Alphonse. Mais
oui, il faut laisser la place à l'heure du crime.
On a tué qui aujourd'hui?
Aujourd'hui, Laurent, je vous conseille d'écouter parce que c'est l'affaire Robert Picton, c'est le plus grand tueur en série du Canada. Lui, il dit avoir tué 49 femmes. La police, elle va en trouver 21. Le fermier Picton et sa ferme au cochon.
Sacré Robert! Robert.
Voilà,
on a tué des femmes, sacré Robert.
On n'est pas très loin de Vancouver.
C'est de l'autre côté.
Il a été arrêté en 2002 après sans doute avoir tué beaucoup plus de femmes qu'on ne croit. Il avait échappé à la police et puis ensuite il a été rattrapé. Je vous raconte aujourd'hui cette affaire incroyable. Robert Picton.
À 14h30 évidemment dans l'heure du crime. On se retrouve dans un instant avec Laurent Gérard à Valsenis et avec vous au 3210. À tout de suite.
Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL.
Il est 14h01. On s'informe avec Lisa Marie Marquez, avec Bruno Le Maire, Lisa Marie qui tente de rassurer les Français alors qu'on connaîtra mardi le chiffre exact du déficit public.
Les impôts n'augmenteront pas, ça n'est pas la bonne solution. Annonce du ministre de l'économie et des finances sur BFM TV. Il ajoute que l'objectif est de retrouver les 3% de déficit public d'ici 2027.
On est 40 ans après l'assassinat du petit Grégory et de nouvelles expertises sont annoncées.
Oui, comme RTL vous le révélait hier, la justice ordonne de nouvelles expertises pour tenter de faire toute la lumière enfin sur l'assassinat du petit garçon de 4 ans dans les Vosges en 1984. De nouvelles expertises sur la voie du ou des corbeaux qui avaient menacé ses parents.
La Russie ajoute le mouvement international LGBT à sa liste de terroristes et extrémistes.
Le mouvement international LGBT avait déjà été banni par la Cour suprême russe en fin d'année 2023. Et selon une nouvelle note interne, les autorités ont décidé de renforcer la répression des minorités sexuelles en Russie.
La météo avant de retrouver Laurent.
Demain, changement brutal de temps sur la moitié nord avec le retour des giboulées et de la neige sur les Vosges, le Jura et les Alpes du Nord. Ça restera plus calme ailleurs. À noter également une chute brutale du mercure, on perdra entre 6 à 10 degrés par endroit en l'espace de 24 heures.
Merci Lisa Marie.
Les auditeurs ont la parole
avec Vincent Parisot sur RTL.
C'est une édition spéciale, hein, vous l'avez compris, avec Laurent Gérard en direct de Valsenis pour son festival C'est le printemps. On a nous aussi notre jingle temporaire.
Ta 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 ta.
Vous l'avez reconnu, Laurent?
Ah oui.
Eh oui, c'est du fait maison,
quand
ça.
Quand je vous disais qu'elle avait l'oreille musicale. Hein.
Célestine, voilà, qui faisait le petit jingle d'RTL. Elle a bien l'oreille musicale. Alors, on croule sous les appels au 3210. On va enfin pouvoir vous prendre en ligne pour discuter avec Laurent. Un autre Laurent, du coup, du côté de Chérizy. Bonjour, Laurent.
Oui, bonjour, monsieur Parisot. Bonjour aux auditeurs et bonjour à monsieur Gérard.
Vous avez une voix
et moi, Fantomas. Et ma femme vous adore, monsieur. Et tante Yvonne également. Bon, j'aurais une... Voilà, vous faites mon petit rayon de soleil le matin avant de démarrer.
Ouais.
J'aurais une question à vous poser pour avoir rencontré monsieur De Verdière ou monsieur Rose. De Verdière, on a discuté pendant trois quarts d'heure à propos de vous. Vous avez les initiales LG, moi j'ai les initiales LF, donc il m'a dit tu passes avant. Bon, mais vous avez des paroliers qui ont une culture énorme, mais comment faites-vous pour trouver une voie, une nouvelle voie?
Bah, j'ai toujours tendance à dire que je suis un peu comme Jeanne d'Arc, c'est plutôt les voix qui viennent à moi. C'est vrai que dans le gouvernement actuel, on a une crise de voix quand même, parce qu'on ne voit pas trop comment on va les imiter. Déjà,
il faut les connaître.
Ouais. Et non, c'est vrai, c'est un peu improvisé parfois. Évidemment, vous citiez Stéphane Rose, Jérôme de Verdière, Pascal Fioretto, qui sont les auteurs du matin. On a de la chance d'aller au boulot en rigolant. Mmh. Et puis parfois, en rigolant, parfois aussi avec un petit verre, il y a des voix, je dis, mais il ne parle pas un peu comme ça, lui. Et Stéphane me dit, mais tu le tiens, et voilà. C'est,
alors, ça veut dire que c'est beaucoup de travail aussi, Laurent.
C'est du travail inconscient, Vincent. J'observe beaucoup, mais inconsciemment, quand je regarde la télé et que je m'énerve, et quand la glande à venin se met en route, généralement, j'ai plutôt envie d'imiter pour de bonnes ou de mauvaises raisons.
Voilà, Laurent.
Merci beaucoup. Et c'est toujours fait.
Merci, Laurent.
Oui, et merci. Avec affection,
mais
toujours.
Mais c'est ça qu'on aime aussi.
Surtout avec passion.
Passion et dans l'esprit des anciens humoristes, Jean Amadou et autres, qui n'avaient pas vos qualités artistiques, mais qui en avaient d'autres, mais toujours dans le même esprit.
Merci beaucoup, Laurent. En tout cas, on vous souhaite une bonne journée. Philippe veut intervenir et veut aussi poser une question à Laurent. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Vincent.
Bonjour.
Alors, je vous présente Laurent Gérard.
Oui, ah, c'est un plaisir. Laurent Gérard, je le connais, je le suis depuis les années 90-91, depuis ses débuts avec Laurent Ruquier.
Ah oui.
J'ai la chance d'être jeune retraité.
Alors, il y en avait même avant Laurent Ruquier, si je peux me permettre.
Claude Villers qui nous a quittés il n'y a pas longtemps.
Oui, oui.
Je voulais dire à monsieur Gérard, étant jeune retraité, je vous écoute tous les matins avec Jade. C'est un plaisir. Même par temps gris, vous apportez du soleil, du sourire, de la joie. Vous êtes un maître, merci. Vous êtes à la hauteur de votre spectacle. Et j'espère vous revoir à Bar-le-Duc et de venir à guichet fermé.
Vous l'avez vu en spectacle, Laurent?
À Bar-le-Duc, à guichet fermé. Et je peux vous dire que les musiciens étaient comblés. Et je peux vous dire qu'il y avait des fous rires dans la salle. C'était formidable. Alors, Laurent, j'ai entendu que vous avez bu un petit Génépi. Venez en Meuse, vous n'êtes pas très loin de la Marne.
Mais bon, puisque vous en parlez...
Voilà. Non, mais si vous l'incitez aussi, Philippe, on ne va pas en sortir. Avec modération, tout ça. Hein,
Avec modération, toujours avant le spectacle. Après, c'est pas pareil.
Non, après, on peut se tâcher un petit peu, surtout si on ne prend pas le volant. Je vous remercie, Philippe. J'enchaîne, parce que vous êtes très nombreux, évidemment, et j'aimerais que Jacques intervienne. Jacques, il est à Lons-le-Saunier. Bonjour, Jacques.
Bonjour, Vincent. Bonjour, Laurent. Alors je suis super heureux de vous avoir au téléphone parce que moi je suis un supporter depuis le tout début avec Jacques Martin. Je vous suis depuis des années, j'ai été voir tous vos spectacles car nous sommes un petit peu privilégiés dans le Jura. Vous venez souvent à Bourg-en-Bresse et vous venez de temps en temps à Lons-le-Saunier et je vous ai vu à chaque fois et je vous en veux quand même un petit peu parce que vous êtes la personne qui me fait pleurer souvent, mais pleurer de rire. Et vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et moi, je voulais vous poser une question. Malgré votre statut de star, parce que pour moi, vous êtes une vraie star, vous êtes resté toujours aussi fidèle, aussi sincère et aussi proche des gens. Et on a toujours pu vous approcher, vous serrer la main lors de vos spectacles. Et comment vous gérez un petit peu cette notoriété? Parce que bon, vous faites chaque fois le salle comble... Il y a du monde, je veux dire, c'est vraiment le succès le plus complet depuis des années, et j'espère que ça continuera. Comment faites-vous pour gérer cette notoriété, Laurent?
Ça se gère pas, vous savez, c'est ce que je disais à l'auditeur à Laurent, je crois, c'est la passion. Moi, j'ai de la chance aussi. Mon métier, c'est fait, on est des saltimbanques, hein, c'est-à-dire qu'on parcourt les routes de France pour aller à la rencontre du public. Le Jura est cher à mon cœur parce que ma maman est jurassienne. Je vais faire les nuits jurassiennes bientôt, je crois, au mois de novembre. Et puis, bon, c'est des régions quand même. Moi, j'aime bien le vin jaune et le vin de paille. Donc c'est ça. Mais c'est surtout, je pense qu'il faut aller à la rencontre du public. Et vous en êtes la preuve vivante, c'est que les gens vous font des sourires toute la journée. Et même quand on est un petit peu fatigué, on se doit d'avoir le respect. Moi, j'ai été spectateur quand j'étais petit. J'allais voir Charles Aznavour à Bourg-en-Bresse. J'allais voir Yves Montand. Et voilà, c'est une démarche. Ça coûte de l'argent, un spectacle. Ça coûte de l'argent d'acheter une place de spectacle. On se doit d'être respectueux eu égard au public qui fait cette démarche. C'est une démarche comme d'aller dans un restaurant et de faire un bon dîner. C'est une tradition assez française.
J'aime bien le parallèle.
C'est vrai. D'ailleurs, le spectacle va être autour de ça, mon prochain spectacle, puisque ça s'appelait Laurent Gérard se met à table. Par rapport aux expériences que j'ai pu avoir de table, mais aussi de partage. Je crois qu'il faut, surtout dans cette époque où il y a les réseaux de cas sociaux, où tout le monde donne son avis, etc. Mais le vrai contact avec le public, c'est ça.
Et quand on va au restaurant, on aime bien que le chef vienne nous voir aussi à la fin du repas.
Ouais, mais j'ai un super chef dans mes restaurants. Enfin, j'ai des super chefs, j'ai une équipe formidable. Il faut être... C'est une équipe. Hein. Et il faut, quand on veut donner du plaisir... La scène, je le dis toujours, la scène, et la scène, comme on dit en italien, c'est important, c'est le partage. Ouais. Et merci, parce que vos témoignages, en plus vous me suivez depuis Jacques Martin, qui était mon papa de télévision, ça me touche beaucoup. Encore là, mon cher Vincent, c'est touchant, c'est d'être encore là après 30 ans.
Ce qui est important et ce qui est difficile, c'est de durer, tout le monde le sait, et vous êtes vraiment...
Quand on fait des
macarons. Bien joué. Vous restez avec nous, Laurent, parce qu'on a encore 20 minutes à passer ensemble. On n'aura pas le temps d'écouter tout le monde, tellement vous êtes nombreux au 32-10. Mais on va essayer de faire le maximum ici à Paris au 32-10. Et bien sûr, sur place avec vous et vos amis à Valsenis. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
Vincent Parisot vous donne la parole sur RTL.
Vincent Parisot.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bonjour Laurent,
sais pas si j'aurai la chance de vous parler, mais je voulais vous dire que ce que je préfère comme imitation, c'est les aventures de Finky, c'est les des chiens. Et puis j'aimais beaucoup aussi votre imitation de d'Annie Briand, mais on ne l'entend plus le matin, sauf erreur de ma part. Tcha 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 tcha. Alors je compte sur vous pour renouveler parce que c'est vraiment très drôle.
Je pense que Danny Briand... Je pense que Danny Briand sera de retour bientôt. Je tiens à dire deux choses. Tout d'abord, que tous les auditeurs d'RTL qui interviennent vont recevoir prochainement une boîte de chocolat Jeff de Bruges, parce que c'est Pâques et que RTL est aussi de la fête. Et puis je tiens à dire aussi que l'un des auditeurs d'RTL ou l'une des auditrices qui sera intervenue dans cette émission et aura dialogué avec vous, Laurent, recevra deux places pour votre spectacle. Laurent Gérard se met à table. Et on tirera avec ça plaisir. Au sort dans quelques instants. Est-ce que Mylène est avec vous, à vos côtés, Laurent? Mylène?
Oui, c'est moi.
Ah ben voilà, bonjour Mylène.
Bonjour Mylène. Bonjour. Et à côté d'Yves Dimier.
Ah très bien, Yves Dimier.
Très bien entouré, Mylène.
Le directeur de la station. Mylène, on vous écoute.
Je pose ma question.
Tout. Oui.
Voilà, je voulais demander à Laurent Gérard si dans son métier, bon, qu'il aime par-dessus tout, j'espère.
Ah bah oui.
Voilà, si malgré tout, vous avez quelquefois des contraintes ou... Dans toute profession, je suppose que quand même, on a quand même des contraintes. Quelles sont les vôtres, si vous en avez de temps en temps?
On a un vrai luxe, on fait ce qu'on a envie de faire. On dit ce qu'on a envie de dire. La scène est un des plus grands espaces de liberté. Donc c'est vrai que là, oui, bien sûr, on a pas trop de contraintes, on a de la chance.
Ouais.
On a une chance inouïe. Parce qu'on fait, moi, je suis mon propre patron depuis 30 ans, donc je fais ce que je veux. J'ai fait quelques films et ça a été vraiment, notamment ici, puisqu'on a tourné pas mal dans la région. Bah non, j'ai ce vrai luxe de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et de ne pas faire ce que j'ai pas envie de faire. On dirait une phrase de Johnny d'ailleurs.
Ouais, c'est pas mal.
Mais c'est Laurent, vrai que les contraintes, c'est quoi? C'est des contraintes
des
d'horaire, parce que parfois,
en forme, qu'il faut
parce que parfois
scène,
on rend l'antenne un peu trop tard, quoi. Mais bon, ça c'est.
Ah ouais, c'est
non, mais quand il faut monter sur scène, non. Là, je vais recommencer dans deux mois. J'estime que j'ai un peu trop attendu parce que j'ai toujours été sur scène, donc j'ai un petit peu plus de stress. Mais une fois que j'ai posé le pied sur scène, et ce qu'on disait avec mon ami Bernard Lavillier, c'est que hop, c'est que du bonheur. J'ai pas de stress, au contraire, on a envie de livrer la marchandise et puis de faire marrer et puis pas d'aller dans l'air du temps surtout. C'est-à-dire qu'on se dit,
allez, on peut le dire, mais justement,
il faut le dire avec le sourire, Vincent.
Laurent, est-ce qu'il y a une différence entre la scène et la radio? Vous parliez de liberté totale, on comprend bien, mais est-ce que peut-être on dit des choses différemment à des personnes qui ont payé pour venir, qui ont voyagé pour venir, qu'à des personnes qui sont juste derrière leur radio, et ça de manière gratuite, et qui peuvent tourner le bouton?
Oui, bien sûr. Non, mais l'écriture n'est pas la même. Le problème de la radio maintenant, c'est qu'elle est filmée. Donc, pour qu'on récupère les images, pour les passer à droite, à gauche, et les envoyer sur les réseaux, comme je disais, de cas sociaux. Donc, on fait forcément un peu plus attention. Mais la scène est le dernier espace de liberté, je le redis. Je pense que le public qui me suit, et j'en suis vraiment très honoré et très touché depuis toutes ces années, sait à quoi il va s'attendre. Je ne vais pas encenser le véganisme, le néo-féminisme et le wokisme.
Je ne vous reconnaîtrai pas, Laurent. Valérie est en ligne.
Bonjour, Mylène.
Oui,
merci beaucoup.
Je me demandais aussi
Alors, comme la radio n'est pas filmée exceptionnellement aujourd'hui, Mylène est habillée très, très montagnarde.
C'est vrai.
Très, très élégant.
Merci.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Mylène,
merci
rapidement
beaucoup.
Non.
Je regagne ma place.
Bon, ben voilà, très bien. Merci beaucoup, Mylène. On a Valérie qui a fait le 32-10, qui nous appelle de Rouen. Oh, des beaux restaurants à Rouen, d'ailleurs, et dans la région. Bonjour, Valérie.
Bonjour à toute l'équipe. Oui, on a des bons restaurants, mais nous, on est à Moron-les-Bains.
Ah.
Une petite commune entre Rouen et Saint-Étienne.
Bon, mais on y mange bien quand même.
On y mange bien quand même, bien sûr. Et bonjour, monsieur Laurent Gérard, parce que, voilà, moi, je voulais savoir si vous alliez venir sur Saint-Étienne pour votre spectacle.
Oui, ça sera le deuxième service. Je pense que ça sera plutôt en 2025. Mais Roanne, Roanne, je viens. Si vous êtes
vous venez au Scarabée, oui, j'ai vu. Mais nous, on est taxi sur la plaine et on aime bien aller vous voir à Saint-Étienne. Donc
bon,
voilà.
Mais Roanne, c'est pas loin non plus.
Taxi, on se tourne. Non, mais c'est vrai,
Est-ce que vous aviez une question alors, Valérie?
Eh bien, la question, vous l'aviez posée parce que je voulais savoir comment il faisait quand il était à la radio avec Jade. Parce que nous, on se marre. On voit pas les grimaces, mais on se marre. On aime bien le voir en vrai parce que au téléphone, moi, je suis toujours dans ma voiture et je l'écoute, mais je ne le vois pas.
Oui.
Écoutez, enfin, la radio a aussi...
C'est magique,
la voix. Il y a quelque chose qui est une constante à la radio, c'est qu'on a... Il y a l'imaginaire qui marche. Donc, c'est plutôt sympa d'imaginer.
On imagine.
Oui,
avec les clients
sympa,
que j'ai dans la voiture.
Ah,
quand
bah,
vous faites Jackie Chiasson ou quand vous faites Cha-Cha-Cha, on a envie de danser, nous aussi, avec les clients qu'on a dans la voiture. Et donc, revenez vite.
Vous savez, c'est la plus belle récompense. Si on peut apporter un petit peu de bonheur à des auditeurs qui se lèvent le matin
c'est
et qui
ça
vont
qui est
bosser.
Formidable.
Vous savez, au Salon de l'Agriculture, je disais Vincent, on a eu des témoignages incroyables au Salon de l'Agriculture d'agriculteurs qui disaient « On vous écoute dans notre tracteur, ça nous donne du baume au cœur ». Mais c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. C'est parce qu'on a la chance de pouvoir faire ça. Et puis la radio, c'est magique pour ça. Regardez,
et puis on sent tout l'amour que vous avez pour tous ces gens-là. Et quand on entend Jackie Chiasson avec son accent, alors c'est quoi? C'est stéphanois Dauphiné, c'est quoi l'accent de Jackie Chiasson?
Ouais, c'est un peu stéphanois Jackie Chiasson.
Eh ben, on sent que vous amenez particulièrement cette région aussi.
Il y a beaucoup de bon sens. Les Français ont beaucoup de bon sens, mine de rien, vous savez.
On marque une petite pause parce que.
Eh ben, marquons.
Voilà, et puis on vous retrouve pour conclure l'émission avec les auditeurs d'RTL et avec tous ceux qui sont à vos côtés. Laurent Valseny, quatre jours de fête. Et de spectacle. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Vincent Paris. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole
avec Vincent Parisot sur RTL.
Et Laurent Gérard qui est à Valseny chez lui à l'occasion de C'est le printemps, ce festival 4 jours de concerts et de spectacles. Laurent Gérard qui a son auditorium à son nom, c'est quand même pas rien.
C'est un honneur.
C'est vrai. C'est
Jean-Pierre Janssen qui était l'ancien maire et qui a voulu faire un auditorium. Et je voulais juste vous dire pour l'anecdote que je suis à côté d'Yves Dimier.
Ancien champion de ski quand même.
Ancien champion de ski et que j'aurais fait cette émission avec mes chaussures de ski car je skiais ce matin et je vais y retourner.
Et
les pistes sont bien damées parce que Marina Giraudot a pris le volant tout à l'heure.
Tout est bien damé. Donc là, vous êtes en chaussures de ski?
Oui. Et en tenue.
Et vous les avez desserrées ou elles sont serrées depuis
Non, elles sont bien.
Yves Dimier est à vos côtés, donc ancien champion de ski, directeur de la station. Est-ce que on peut vous demander, Yves Dimier, quelles sont les imitations préférées qu'est-ce que vous préférez comme imitation de la part de Laurent?
Je dirais les imitations de Johnny, parce que un des premiers spectacles que j'ai vu de Laurent, c'était ici, il y a très longtemps, quand il imitait Johnny, j'avais adoré.
Quand j'étais revenu, c'est vrai. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'équipe de France de ski, que je suis régulièrement, et notamment, je suis souvent en contact avec Jean-Claude Killy, que je salue, parce que Jean-Claude, c'est une légende, et c'est quelqu'un qui a tellement fait pour le... Pour le ski, pour le ça, c'est un sport qu'on ne voit pas assez à la télévision parce qu'on est un peu dépendant des intempéries.
C'est ça, les épreuves peuvent souvent être annulées. Pour les chaînes de télé, c'est compliqué.
C'est formidable. Je suis très très admiratif. C'est pas comme les milliardaires à crampons ou les Jeux Olympiques.
Laurent, on a Virginie qui veut vous poser une question. Elle est à Cuisiaux. Bonjour Virginie.
Bonjour Virginie.
Un grand merci de mettre du soleil dans ma vie tous les matins parce que je suis souvent morte de rire. Et un grand big up pour l'imitation avec Dany Briand qui me fait m'effondre.
Je dois dire, Laurent, que Dany Briand, ça cartonne.
Décidément, on va l'en mettre.
Moi, il me ferait faire pipi dans ma culotte. Heureusement, je travaille à la maison, mais vraiment, c'est mortel. Vraiment, merci. Je voulais savoir, et je veux vraiment qu'on me dise toute la vérité. Je veux savoir si dans votre longue carrière d'imitateur, vous avez croisé les personnes concernées Et est-ce qu'il y a vraiment des moments où quelqu'un s'est vraiment énervé et on est limite venu aux mains avec vous, en fait?
Ah. Est-ce que quelqu'un a mal pris l'imitation?
Non. Oui, il y en a qui ont mal pris. Oui.
Mais pas en venir aux mains, quand même.
Tant mieux, c'était le but. Mais en règle générale, j'ai plus d'amitié que d'inimitié, on va dire. Mais c'est vrai que je suis pas là pour faire de la peine. Quand j'ai fait un petit peu de peine à Johnny, j'ai rectifié le tir, parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Ouais. En revanche, il y en a que j'admire pas
et
du
puis,
tout.
Et puis Johnny vous a pardonné, parce que vous avez quand même chanté avec lui sous la Tour Eiffel, hein.
Absolument, enfin au parc de Sceaux. Mais vous savez, il y a 18 ans, je faisais une parodie sur Gérard Miller par le biais de la voix de Renaud. Donc il y a 18 ans, je pense que je vais monter un cabinet de voyance parce que je disais des vacheries sur Gérard Miller. Les gens comprenaient pas, mais maintenant ils comprennent.
Ben voilà.
Non, mais j'ai plus eu d'amis que d'ennemis, et j'ai surtout, pour répondre à votre question, j'ai surtout rencontré toutes les personnes que j'avais envie de rencontrer. J'ai passé des moments extraordinaires, et notre métier est aussi fait de rencontres.
Maman, en tout cas, moi, ce que je peux juste dire à tous les auditeurs qui s'interrogent, c'est que Laurent Gérard est un ami fidèle en amitié, et ça, je tenais à vous le dire, Laurent, j'allais dire entre les yeux.
On a tellement rigolé ensemble. Vous avez eu honte parfois.
Parfois ça m'est arrivé à la limite.
Parfois, oh là là, non, vous pouvez pas dire ça. Non.
Vous le disiez quand même. Merci Laurent, on vous embrasse, surtout bon festival. Je sais qu'il y aura Alex Vizorek ce soir en spectacle, et qu'il sera tout à l'heure.
Voilà, que des copains.
C'est le bonsoir. Et Valérie, c'est elle qui a gagné les deux places pour aller vous voir en spectacle. Je crois qu'elle ira vous voir à Rouen ou à Saint-Etienne, j'ai pas bien compris, mais en tout cas là c'est deux places. Merci beaucoup, c'était un bonheur. Ça va être à vous de jouer, l'heure du crime.
Bien et sûr. C'est tout de suite, Jean-Alphonse évidemment, Richard. Avec aujourd'hui Robert Picton, La ferme de l'horreur au Canada. C'est tout de suite sur RTL.
À tout de suite.
Bonjour, c'est Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Chaque samedi, retrouvons-nous pendant une heure en direct sur RTL à 12h30 pour le journal inattendu. Les informations du jour avec les reportages éclairants de la rédaction et un invité qui nous livre son regard sur l'actualité. Le journal inattendu, c'est tous les samedis en direct à 12h30 sur RTL.
Vous avez manqué une émission ? Retrouvez-la sur rtl.fr et l'application RTL.